Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et la bourse, c'est tout sauf le casino. Le casino, plus vous y restez, plus vous risquez de perdre votre argent. En bourse, c'est l'inverse. Plus vous restez, plus vous avez une chance de lisser vos risques, effectivement. Vous aussi, vous méritez la bourse. Et la bourse mérite votre fidélité. Bienvenue à tous, on y consacre nos après-midi sur BFM Business. Vous apportez un maximum d'idées d'investissement sur les marchés avec tous nos experts mobilisés. Aude Kersulek depuis la Tour Euronext, la salle de contrôle du CAC. Rebonsoir Aude, on est à une demi-heure maintenant de la clôture. Comment ça se présente?
Il se passe plus grand chose quand même. Depuis 2 heures sur le CAC 40, on bouge pas. Alors on monte, on monte de 0,47%, mais on reste tout juste en dessous des 8000 points. Donc on monte à la suite des chiffres macroéconomiques quand même ce matin. Les PMI, services et composites qui sont meilleurs que prévu. Les prix à la production en zone euro qui ont légèrement décéléré. Et puis évidemment le chiffre de l'emploi, le rapport sur l'emploi américain de vendredi qui fait monter aussi Wall Street. On en profite. Et en tête du CAC, c'est Téléperformance qui vient tout juste de passer les 100 euros.
Effectivement, Téléperformance est le retour d'un certain nombre de mal-aimés. Depuis sa publication, Téléperformance marche bien. Worldline aussi. Alors on verra si Alstom aura sa chance cette semaine. Alstom qui va publier mercredi ses résultats, un autre mal-aimé du marché. Là, on verra si cette publication d'Alstom est aussi positivement appréciée que celle des autres mal-aimés. Voilà, on verra si cette semaine sera la semaine d'Alstom. En tout cas, en attendant, les marchés sont en mode ascension. Oui. Presque 8000 sur le CAC 40 à plus 0,46. Quel potentiel désormais? On va se poser la question dans un instant. On viendra sur Apple. Warren Buffett, un peu moins friand d'Apple, qui a allégé ses positions dans Apple. Comment l'interpréter? Puis Xi Jinping, lui, est à Paris. Quelle place pour la Chine dans vos portefeuilles boursiers? On va essayer là aussi d'apporter des réponses. On est à vos côtés. On joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et si vous avez raté ce qui précède, John Plassard était avec nous tout à l'heure, notre point quotidien sur la présidentielle américaine. Parce que pendant ce temps, la campagne présidentielle avance aux États-Unis. C'était à 15h30 dans USA Today. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre application BFM Business. Vous allez dans BFM Bourse et dans les replays. Voilà, ils sont tous disponibles dans cette application. N'hésitez pas. Notre club s'ouvre ce soir. Pour nous accompagner, Hervé Gouletker, il vient d'enjamber, en tout cas de battre les embouteillages parisiens. Bonjour, bonsoir Hervé.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Oui, parce que le centre de Paris est un peu congestionné avec la visite de Xi Jinping.
Il y a un seul président chinois et beaucoup de policiers.
Conseiller économique du cabinet de conseil Accuracy. Bravo d'avoir réussi à arriver jusqu'à nous quand même. Hervé Gouletker. Et puis Céline aussi nous accompagne ce soir. Céline Picmal-Prade, présidente de Picmal-Louveton Investment. Rebonsoir Céline. Rebonsoir puisque vous nous accompagnez en fil rouge. Vous étiez avec nous dans la précédente demi-heure pour le bullshitomètre. Puisque Xi Jinping vous a mis des bâtons dans les roues, effectivement, le centre de Paris est un poil embouteillé, congestionné, paralysé ce soir, avec la visite du président chinois qui, ce soir, Xi Jinping sera accueilli à l'Élysée avec son épouse pour un dîner d'État. Ben allons-y, allons directement dans cette thématique de la Chine. Quelle place pour la Chine dans les portefeuilles boursiers et déjà, quel avenir pour les relations franco-européo-chinoises? C'est un peu quand même l'enjeu et l'idée autour de ces échanges aujourd'hui à Paris entre les deux présidents. Et qui dépend le plus de l'autre quelque part? Parce qu'on dépend beaucoup de la Chine, mais à quel point la Chine dépend-elle de l'Europe? De l'Europe et de la Chine, qui dépend le plus de l'autre, d'après vous, Hervé?
En fait, historiquement, si on remonte aux décennies passées, on pouvait dire que la Chine était un marché, un formidable marché, puisque un marché qui s'ouvrait, une classe moyenne qui grandissait en nombre, et donc...
N'hésitez pas à vous approcher du micro, Hervé.
Ah, bon. Je m'approche du micro, alors.
Ou approchez votre micro, c'est ça.
Voilà. Voilà. OK. Donc, une Chine qui était une espèce de marché très prometteur. Et donc, voilà. On avait besoin de la Chine. Le meilleur exemple, c'est l'Allemagne. La croissance allemande a quand même été bien tirée par des exportations, beaucoup d'exportations chinoises. Aujourd'hui, on est dans un schéma un peu différent. Le modèle économique chinois a changé. C'est plus un modèle tiré par l'offre et plus un modèle tiré par une montée en gamme de l'offre chinoise. Et ce qu'on voit clairement aujourd'hui, c'est que la Chine met le paquet sur toutes les technologies d'avenir. Et ce faisant, pour être compétitif, a besoin d'aide publique et a besoin de produire beaucoup. Plus, en fait, que ce que le marché chinois ne peut absorber aujourd'hui pour des tas de raisons. En fait, une volonté politique de ne pas dynamiser de trop la consommation intérieure chinoise.
Mais pourquoi, mais pourquoi une volonté politique de ne pas trop dynamiser la consommation intérieure ? C'est paradoxal pour une économie qui, justement, veut devenir une économie de consommation à son tour. C'est très paradoxal.
Il y a deux raisons
à cela. Le paradoxe est chinois en même temps. Ils aiment les paradoxes.
Ouais. Il y a deux raisons à cela. Une raison, aujourd'hui, on regarde d'abord l'offre et pas la demande, la montée en gamme. Et donc, il faut faire des investissements, il faut faire de la recherche et développement. Et une raison de dimension plus politique et plus morale, en fait, on veut que les Chinois travaillent, épargnent et dépensent moins. C'est une vision un peu peut-être confucéenne ou maoïste, ou un mélange des deux, de la Chine. Et donc, aujourd'hui, le débouché en termes de demande, s'il y a une contrainte sur la demande intérieure, c'est la demande extérieure, d'où ce dont on a sans doute parlé lors de la réunion, le président Xi, Madame von der Leyen, Monsieur Macron, c'est-à-dire des ventes massives de produits chinois à prix relativement bas, relativement au coût. Que l'on a en Europe aujourd'hui et comment y faire face. Alors, soit les Chinois mettent les pouces tout seuls,
soit l'Europe taxe l'importation des véhicules chinois. Ouais.
Donc, on en est là aujourd'hui.
Effectivement, on en est là. Les constructeurs de véhicules chinois ont devant eux 9 mois de stock. Voilà. Parce qu'effectivement, comme vous dites, c'est exactement ce que vous dites, ils produisent beaucoup, mais la consommation interne ne suit pas le rythme de cette production. Il faut donc écouler cette production ailleurs dans le monde. Et prioritairement en Europe, en l'occurrence.
En fait, les Américains ont déjà des niveaux de taxes plus élevés. Et dans le reste du monde, un reste du monde qui va plutôt moins bien. Alors, les économies émergentes vont correctement, mais les économies en développement ne vont pas bien aujourd'hui pour des tas de raisons liées à la macroéconomie internationale. Donc, acheter des véhicules plus chers aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, il y a des stockages, sachant qu'en plus, il y a un cycle des ventes de véhicules électriques en Europe qui est plutôt en train de passer par un point bas. Peut-être que ça remontera. Là encore, c'est un autre sujet. Mais tout ça, c'est compliqué pour les Chinois et compliqué pour les Européens.
Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre, ces rencontres multiples entre aujourd'hui et demain, entre Emmanuel Macron et Xi Jinping en France ?
J'en attends pas grand-chose. Mais pour compléter ce que disait Hervé, effectivement, on comprend bien qu'on est confronté à une problématique géopolitique nouvelle. On était dans un monde qui était très clairement dominé par les États-Unis et on voit que la Chine veut avoir un monde plus multipolaire. Donc on est en train quand même de vivre un moment de bascule géopolitique assez clair depuis quelques années. Et donc la rencontre d'aujourd'hui en est un petit peu le symbole.
On se met dans la peau des Chinois. Met juste une seconde dans la peau des Chinois, Céline. Ouais. On peut se dire que l'Europe est un terrain de jeu et un lieu de consommation, très bien, des débouchés pour la production chinoise, c'est très très bien, mais aussi d'un point de vue géopolitique, si l'Europe parvient à peu, alors s'affranchir des États-Unis en tout cas, trouver une autonomie croissante qui est aussi l'objectif d'Emmanuel Macron, du point de vue chinois, ce sera aussi positif, parce que le but des Chinois, c'est malgré tout de parvenir à affaiblir l'omniprésence, l'omnipotence internationale des États-Unis. Si l'Europe conquiert une forme d'autonomie, du point de vue chinois, ce sera sans doute vu positivement.
Donc effectivement, ce que je disais à l'instant, c'est effectivement leur désir d'avoir un monde plus multipolaire avec d'autres intervenants que le seul intervenant américain.
De ce point de vue, l'enjeu de puissance européen peut être appuyé par la Chine.
On ne sait pas exactement, mais en tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Et qu'en tous les cas, on parlera des marchés tout à l'heure, mais ça nous conduit à une incertitude géopolitique qu'on n'avait pas peut-être connue depuis très longtemps. Donc ça, c'est un petit peu le nouveau monde qui se dessine avec de l'incertitude géopolitique. Et après, pour rebondir sur ce que disait Hervé à l'instant, dans ce nouveau monde, effectivement, on a des marchés qui consomment, des marchés qui produisent. Et aujourd'hui, moi, le parallèle que je ferais, on a beaucoup fait le parallèle entre la Chine et le Japon en disant, mais finalement, la Chine est aujourd'hui au niveau qu'avait le Japon en 89. À mon avis, aujourd'hui, le parallèle, je le ferais plutôt avec le positionnement qu'avait le Japon au début des années 80. Pour moi, aujourd'hui, ces entreprises chinoises qui débouchent en Europe, enfin qui déboule en Europe, avec des automobiles comme les voitures BYD, avec des panneaux solaires, avec des puces qui sont à bas prix, me rappelle beaucoup plus le positionnement qu'avait eu le Japon. Donc on avait eu des entreprises qui avaient été effectivement soutenues par l'État japonais dans les années 60-70, et au départ on s'était dit, mais finalement ce sont des entreprises qui nous proposent de la quincaillerie de basse qualité, et on avait balayé ça d'un revers de main comme s'il suffisait juste de mettre des tarifs douaniers à Poitiers pour les arrêter. Et on avait vu que c'était plus complexe que ça, et aujourd'hui je pense que le monde a changé et que les entreprises chinoises, elles offrent des technologies qui sont nettement plus avancées que ce qu'on pense, et leur avantage compétitif, il va, bien entendu, il a été favorisé par la taille, mais il va au-delà de la taille. On a aujourd'hui un savoir-faire dans le renouvelable qui est indéniablement détenu par les Chinois, que ça soit sur les batteries électriques, sur l'éolien, sur le solaire et sur, plus largement, la chaîne de production électrique et verte. Et donc ça, c'est une grosse problématique pour nous, Européens, parce qu'effectivement, nous n'avons pas d'énergie. Donc, contrairement aux Américains qui pourraient se dire, ben, moi, de toute façon, je reste sur le pétrole, nous, on n'a pas non plus de pétrole. Donc, effectivement, comment on fait? Et on avait voulu propulser la bascule vers les énergies renouvelables. Si on bascule vers le renouvelable et qu'on veut le faire à un prix raisonnable, on va avoir des difficultés à ne pas le faire en utilisant la technologie chinoise. Et ça, c'est une grosse problématique pour nous en Europe aujourd'hui. Et donc, je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué pour les entreprises européennes de ce segment. Et je pense toujours qu'il y a des choses à faire en investissant dans des industries chinoises qui ont un savoir-faire dans ce
enfin,
domaine-là.
Malgré les aléas politiques, enfin, quand même, il y a eu des aléas politiques quand même, des surprises, des décisions parfois arbitraires, aléatoires, etc., des disparitions de patrons dans la tech, par exemple, ces dernières années. Ça vous refroidit pas du tout? Et puis vous dites réinvestir en Chine, mais le marché chinois rebondit déjà. Là, la tech chinoise, là, en 3 mois, a repris 30%. Dites, c'est pas grave, on y va, et même s'il y a un risque politique, on y va malgré tout.
Alors moi, notre travail en tant qu'investisseur, c'est d'investir en nous. Enfin, bien entendu qu'il y a un risque politique, mais on me fait le parallèle avec la Russie. La Russie, c'était quand même pas du tout le même type d'industrie. C'était pas du tout le même type de savoir-faire que les entreprises auxquelles on est confronté aujourd'hui en Chine. La Chine, c'est quand même, voilà, on le rappelle, 20% du PIB mondial, une superpuissance sur les technologies renouvelables, 70 à 80% de certains domaines sur lesquels ils vont avoir une longueur d'avance très importante. Donc je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué pour la Chine que pour la Russie que de juste balayer d'un revers de main en disant dans nos portefeuilles, on ne veut pas en avoir. Donc je pense que c'est quand même un marché qu'il faut considérer. C'est un marché aujourd'hui qui est très, très peu cher, très peu détenu et sur lequel, jusqu'à présent, les Européens ont le droit d'investir. Donc je pense qu'il ne faut quand même pas non plus se freiner nous-mêmes s'empêchant d'investir. Et il y a des entreprises domestiques qui peuvent être intéressantes, mais des entreprises exportatrices qui me semblent aujourd'hui intéressantes aussi.
Hervé, expliquez-lui. Mais tout n'est pas rose en Chine quand même, loin de là. Et par ailleurs, la Chine aussi a des difficultés économiques, un vieillissement démographique aussi rapide, voire peut-être encore plus grave que celui qu'on vit ici en Europe ou encore aux États-Unis. La population chinoise décline. C'est pas le cas de la population française, par exemple, Hervé.
Oui, alors pour reprendre les propos de Céline, je ne suis pas d'accord avec tout. En fait, il me semble d'abord que les Chinois peuvent vouloir enfoncer un coin dans la solidarité entre les États-Unis et l'Europe. Il n'ira pas très loin, ce coin, même si, évidemment, quand on fait la visite de la France, et puis après des deux vilains canards que sont les Serbes et les Hongrois, on envoie le message qu'on peut enfoncer un coin. Je pense que le monde est, en fait, a une multilatéralité un peu spéciale. Il y a un camp américain avec ses alliés, pas mal d'alliés. Il y a un camp chinois avec certains alliés, pas trop d'alliés. Et puis, il y a un monde qui se cherche entre les deux. Et l'enjeu, je pense, tant pour l'Occident que pour la Chine, c'est en fait ce reste du monde. Et dans ce reste du monde, il y a l'Inde. On est en train de vivre des élections en Inde. Ça, c'est vraiment important. Mais on va essayer d'être moins brutal avec la Chine que les Américains le sont. Mais on restera dans le camp américain pour des raisons qui sont claires. Le Japon, c'est vrai qu'on est passé des gadgets japonais, vous avez raison Céline, des années 60 à de la high-tech des années 80. Mais les Japonais, peut-être pas toujours avec la politesse voulue, vendaient aux Américains, à leurs grands alliés. Alors qu'aujourd'hui, les Chinois, ils veulent vendre à quelqu'un qui est à la fois un concurrent, un client, un compétiteur. Donc en fait, c'est quand même d'une nature un petit peu différente. Quand les Japonais ont lancé leur action de vente tout azimut, on pouvait dire on est dans une logique purement économique et on pouvait rester dans cette logique. Aujourd'hui, il y a un mélange entre l'économique et le politique. Et donc, c'est là un peu la limite de ce parallèle. Quant au dernier point, c'est-à-dire...
Investir
est-ce
en
que
Chine.
Le marché chinois est investissable pour un occidental? Vous en savez plus que moi là-dessus, donc je dirais ça avec prudence. Mais il me semble tout de même que quand on est face à un pouvoir politique qui dit vraiment l'économique est au service du politique, l'économique se pliera aux volontés du politique, il faut quand même accepter qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Et donc, on est sans doute moins face à un risque qu'à une incertitude. C'est-à-dire que quand on investit en Chine, on peut très bien voir les règles brusquement changer du tout au tout. Et ça, l'incertitude, ça se quantifie pas trop, quoi. Le risque, vous pouvez dire, j'y vais, je peux me dire que je vais avoir des profits de ceci, de cela, et vous dites, bon, ben voilà, je fais mes choix avec des scénarios différents. Là, on est face à une incertitude. La situation économique est pas très bonne, hein. D'ailleurs, les chiffres du premier trimestre, excellent, hein. En glissement sur un an, plus de 5% de croissance. Mais ça a été tiré tout de même beaucoup par la dépense publique, par les dépenses d'infrastructures, puis par les exportations, quoi. Et ça, c'est un peu les limites du modèle. Ça serait de l'investissement privé, tout plein de tech. On dirait, waouh, c'est bien. Ça serait de la consommation privée, tout plein d'achats de produits modernes. On dirait, c'est bien, mais... C'est pas vraiment le cas.
Match retour, Céline, justement, l'investissement en Chine. En tout cas, vous n'avez pas peur d'y investir, c'est ce que vous disiez avec force argument il y a un instant, mais à quelle proportion pour la Chine dans les portefeuilles chez vous?
Alors, donc la Chine, c'est 20% du PIB mondial. Moi, dans mon portefeuille Action Internationale, c'est 25%. Donc, j'ai pas peur de dire qu'effectivement, aujourd'hui, notre métier, effectivement, bien entendu, qu'il y a des incertitudes, mais c'est quand même d'ouvrir la fenêtre, de réfléchir à être reposé et de se dire que tout a un prix. Voilà, tout a un prix. Et aujourd'hui, on a des valorisations qui sont les plus basses de la planète. En Chine et à Hong Kong, la bourse de Hong Kong en janvier avait quand même perdu 20%. Ça me semblait être quand même un point d'entrée. Il y a un moment où il faut raison garder, sauf effectivement à penser qu'on va fermer les bourses de Hong Kong et de Shenzhen. Jusqu'à présent, rien ne nous empêche d'investir. Les prix sont extrêmement bas et on a des sociétés, là je ne parle pas d'eux, de la croissance du pays. C'est un peu le même parallèle quand on avait eu le tsunami sur le Japon. Je me souviens, j'avais pris une position, j'avais dit on va mettre 35% de nos investissements sur le Japon. Parce que je disais, mais écoutez, Fanuc, c'est une société qui vend des robots partout dans le monde. Daikin, c'est une société qui vend de l'air conditionné partout dans le monde. Évidemment, il y a eu un tsunami, il y a un drame nucléaire qui a lieu au Japon. La bourse de Tokyo avait été fermée pendant une semaine. Mais à mon sens, ça n'empêche pas ces sociétés d'être investissables. Eh bien, aujourd'hui, j'ai des sociétés qui sont cotées à la bourse de Shenzhen ou à la bourse de Hong Kong, qui, à mon sens, ont des perspectives de croissance très importantes, tout simplement parce que, par exemple, quand on est AIA et qu'on vend de l'assurance partout en Asie, on va avoir de la croissance. Il y aura plus d'épargne de la part de ces épargnants dans les pays asiatiques au cours des prochaines années. C'est l'endroit au monde où il y aura la plus forte progression de l'épargne au cours des 5 prochaines années. 7,6%, on est bien au-dessus de ce qu'on va avoir en Europe aux États-Unis. Et ces entreprises, elles traitent à des valorisations totalement au tapis. Et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut aller chercher des idées. On parlait de l'automobile. Une entreprise comme BYD me semble aussi intéressante. On est toujours à des multiples de 12 ou 13 fois les profits. On est très 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 loin des valorisations de Tesla. Et on parlait d'une révolution. On a une révolution sur la voiture électrique qui va devenir moins chère que la voiture thermique et qui va avoir une augmentation de sa pénétration.
Dans vos portefeuilles,
ou non.
BYD, oui. Stellantis, Renault, non.
Non, mais non, parce que justement, il y aura des gagnants et des perdants. Hein. Donc à mon sens, c'est un rouleau compresseur, on va sûrement reparler, hein. Mais c'est un peu comme quand on a eu Toyota qui est arrivé sur le marché automobile il y a 30 ans, c'est plus qu'un gadget, c'est un savoir-faire, c'est un avantage technologique et c'est un coût qui est largement inférieur à tout ce qu'on a en Europe.
Dans 10 ans, Renault et Stellantis seront-ils encore là ou pas? Non mais, Hervé?
Bah écoutez, je n'en sais évidemment rien.
On l'espère tous, mais...
Voilà, il faut l'espérer. Dans cette révolution de l'automobile électrique, moi, il y a quelque chose qui me frappe dans cette histoire. Et alors, ça ne va pas être une réponse directe à votre question, Guillaume, mais je pense que ça vaut un peu urbi et orbi, donc pour tous les constructeurs. C'est-à-dire que on vend des voitures électriques neuves. Le relais de la vente des véhicules d'occasion ne se fait pas pour le moment. On ne vend pas de véhicules électriques d'occasion pour des questions de batterie, d'usure des batteries, qu'est-ce que ça veut dire? Donc moi, j'ai quand même l'impression que pour que la réussite de ce changement de technologie du moteur thermique vers le moteur électrique soit prouvée, il faudrait qu'on ait un marché de l'occasion qui se mettent en place, qui deviennent matures. On n'en est pas là. Donc en fait, c'est encore un marché qui se cherche. Hein. Bon, il y a ça, il y a l'autonomie des véhicules, hein, qui reste tout de même une énorme question. Donc moi j'ai l'impression que c'est un marché qui se cherche. Est-ce qu'aujourd'hui, la mue est déjà entièrement faite? Alors, des constructeurs chinois font le pari, BYD en est le meilleur exemple. Moi, je ne sais pas, mais pour tout de même rendre hommage à Céline sur un point, c'est que moi, je défends une vue d'ensemble, et Céline dit, il y a des choix de valeur, il y a du stock picking à faire, il y a les niveaux de valorisation qu'il faut prendre en compte, et sur tous ces points, elle a entièrement raison.
Et pourquoi pas l'Europe? Non mais attendez, en termes de, voilà, les marchés attractifs aujourd'hui, les astres qui s'alignent, on évoquait un petit peu l'attrait du marché chinois qui vous séduit, effectivement Céline, mais pourquoi pas l'Europe? On est très en retard en valorisation sur Wall Street, on aura une première baisse de taux en Europe avant la baisse de taux de la Fed. Bon, pourquoi pas l'Europe? Un petit regain de croissance d'ailleurs aussi en Europe, ça semble réaccélérer la croissance ici en Europe. Pourquoi pas l'Europe? Pourquoi pas la renforcer désormais dans vos portefeuilles, Céline?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire en dehors du marché américain. Parce qu'on n'a pas parlé des marchés dans leur ensemble, mais on reste toujours avec un marché américain qui est hégémonique aujourd'hui. Hein. C'est 66% de la capitalisation boursière mondiale aux États-Unis. Donc effectivement, on a un décalage total de performance entre le reste du monde et les États-Unis, et donc un boulevard pour des investisseurs qui sont effectivement en mesure de profiter de cette opportunité en Europe, dans les pays émergents, qui me semble extrêmement intéressant. En Europe, pour autant, je pense quand même que si on a à terme un essoufflement sur les États-Unis, je pense que, comme on disait, quand l'Amérique éternue, l'Europe s'enrhume. Enfin, je pense pas que ça soit si simple que ça. Avec des taux qui vont rester longtemps.
Sauf si la Chine accélère. Vous dites la Chine, ça va aller mieux. L'Europe, elle dépend aussi de la Chine.
Mais il y a quand même un lien qui risque de se faire un moment ou un autre entre ces deux zones de la planète. Donc, il faut quand même être un tout petit peu attentif. Mais ceci dit, ça n'empêche pas de se positionner sur le long terme parce qu'on a effectivement des valorisations qui sont très basse sur beaucoup de dossiers, et j'en parle beaucoup, mais je pense qu'il y a un dossier qui reste très très intéressant pour le long terme, c'est Total Energy, qui est coté à la Bourse de Paris aujourd'hui encore, peut-être demain New York, mais toujours à Paris, et à mon sens qui est une société qui est très intéressante avec un coupon très élevé parce qu'il y a un boulevard sur l'énergie pour demain. On parle de la voiture électrique, mais pour l'instant on a quand même une transition qui doit se faire entre le charbon et autre chose. Le charbon et autre chose, c'est le gaz, et le gaz, c'est un des savoir-faire de Total Energy.
Sauf que Total Energy nous dit attention, parce que les Européens, les institutionnels européens investissent de moins en moins dans mon capital pour des raisons ESG, ils en ont de moins en moins le droit, et donc les Américains sont de plus en plus influents au sein de mon capital, au point effectivement que Total Energy réfléchit à faire de Wall Street sa place principale de cotation. Est-ce qu'on n'a pas là un retour de flamme de l'ESG? Est-ce que, oui, on est tous pour la défense de l'environnement, Hervé, mais est-ce que la finance durable peut se dire responsable si à la fin elle aboutit à une perte de souveraineté européenne sur ces entreprises-là?
Je pense que la question que vous posez, Guillaume, en fait, montre quelque chose qui est un vrai problème, c'est-à-dire que l'épargne européenne ne s'investit pas beaucoup en actions, et l'épargne européenne, pour partie, part aux États-Unis. On a un marché profond liquide, hein, les plus de 60% de la capitalisation actions mondiales aux États-Unis, ce n'est pas rien. Et je pense que le problème de fond, c'est que on ne fait pas assez de choses pour garder notre épargne chez nous. On ne fait pas assez de choses pour flécher l'épargne vers les marchés actions. Ça, alors, c'est typique dans le cas français. Pour beaucoup, ça vient de notre système de financement des retraites. Hein. Mais on pourrait avoir quelque chose de plus vertueux, c'est-à-dire à la fois d'efficace en termes de formation de l'épargne retraite des gens, et puis qui, en termes de financement, permettrait plus de choses. Et je pense que le problème, vous parlez de l'ESG avec un regard critique, mais en fait, si on veut financer la transition énergétique qui va coûter quelques petites centaines de milliards d'euros par année tout au long des prochaines années, si on n'arrive pas à mobiliser notre épargne, à l'empêcher de partir ailleurs, on aura de vraies difficultés. On a un excédent d'épargne en Europe, il faut en profiter, et il faut, dans la mesure du possible, transformer cet excédent en investissement, et l'investissement de la transition énergétique est là. Donc,
c'est pas l'ESG qu'on critique, les ambitions, elles sont nobles, le problème, c'est le chemin. Enfin, l'enfer est pavé de bonnes intentions, est-ce que là, on n'a pas un chemin pavé de bonnes intentions qui, malheureusement, commence à nous venir en boomerang? On le voit à travers Total, qui, plus le capital s'américanisera, et pardon, mais moins Total sera sensible à ces enjeux ESG qui sont pour l'instant surtout des enjeux aux yeux des Européens, plus que des Américains.
Je suis d'accord sur l'idée que...
Donc l'ESG se tire une balle dans le pied de ce point de vue.
Il faut qu'on ait, alors je vais le dire comme ça, un capitalisme financier puissant en France pour que on arrive à imposer nos règles ESG. Sinon, on joue dans un jeu qui ne sera pas pour nous, et c'est le contre-exemple de Total.
Oui, les industries de défense, l'industrie de la défense, on imagine que les institutionnels européens ont du mal, de plus en plus, peut-être à investir dans les entreprises européennes de défense pour des raisons ESG, et donc, bon voilà, c'est cette question de souveraineté qui se pose aujourd'hui. Mais on le découvre, voilà, c'est en marchant qu'on apprend à marcher, et c'est exactement ce qui se passe autour de aujourd'hui. Aude nous appelle, Aude Kersulek, à 5 minutes de la clôture ici en Europe, depuis la tour Euronext. Bon, Aude, ouais, 5 minutes nous séparent de cette clôture. Comment ça se présente ce soir sur le CAC?
Vous parlez de ESG, en tout cas la plus forte hausse du SBF 120, le CAC il est très stable, mais la plus forte hausse du SBF 120, c'est Morel & Prom, 6,7% de hausse, parce que il y a eu une actualité, le groupe pétrolier justement a annoncé avoir reçu une autorisation de la part d'un régulateur américain, l'OFAC, pour poursuivre ses opérations au Venezuela. Morel & Prom qui détient une société justement au Venezuela, donc pour extraire du pétrole, qui donc obtient cette autorisation de la part de la régulation américaine pour explorer le pétrole. À mon avis, c'est pas tellement à cause de l'ESG, mais en tout cas, ça monte de 6,7%. Donc pour le groupe pétrolier, la plus forte baisse du jour, c'est Atos pour le moment, moins 4%.
Effectivement, Aude, on vous retrouve dans un instant pour la clôture effectivement en direct. Des publications à suivre cette semaine aussi. Alstom publiera mercredi. On verra si Alstom profite de courants ascendants, si la publication est bien appréciée, comme celle des autres mal-aimés du marché qui, sur leur publication la semaine dernière, ont rebondi. Téléperformance, par exemple, qui d'ailleurs aujourd'hui progresse encore, ou encore Worldline. Voilà, les mal-aimés du marché depuis la semaine dernière, depuis leur publication, tendent à remonter, à rebondir. On espère que ce sera pareil pour un autre mal-aimé, à savoir Alstom. Et puis demain, Bouygues aussi publiera ses résultats. 17h32, on entre dans la Data Room. Les data, c'est leur dada. À cheval sur les chiffres, ils veulent, par leur simple data, secouer, réveiller, mettre en selle l'investisseur qui peut-être sommeille en vous. Céline et Hervé, êtes-vous prêts?
Oui.
C'est ici et maintenant que tout se joue. 1 minute 30 chacun pour présenter une data forte. Céline, on va démarrer avec vous, votre chiffre, moins 83,5%.
Oui, c'est moins 83,5% pour le dollar. face à l'or depuis 20 ans. Je ne suis pas totalement sûre que ce soit une donnée qui soit extrêmement présente dans l'esprit des investisseurs, d'autant plus que aujourd'hui, l'or et les mines d'or représentent 1% des actifs mondiaux. On parlait tout à l'heure des actions par rapport aux autres classes d'actifs. Les actions, c'est 13%, mais l'or et les mines d'or, c'est 1%. Donc, c'est dire à quel point ce chiffre n'est pas présent, tout simplement parce que, au cours des 20 dernières années, on a voulu préserver son patrimoine dans un environnement de baisse des taux d'intérêt en investissant dans l'immobilier. Nous le savons tous, l'immobilier était le grand bénéficiaire de la baisse des taux d'intérêt. Et donc, l'immobilier, c'est entre 40 et 50% des actifs mondiaux aujourd'hui. Et donc, la réflexion que je voulais avoir avec vous aujourd'hui, c'est comment protéger nos patrimoines d'une baisse de la valeur du papier monnaie, comme je l'évoquais à l'instant, moins 83%.
Dans l'univers crypto, comment est-ce qu'on fait savoir trouver la réponse
voilà.
Ils vont vous dire en achetant des bitcoins, en achetant de l'Ether, voilà. Des cryptos. Ouais.
Eh bien, une réponse, c'est peut-être à aller chercher du côté de l'or, des mines d'or qui sont passées à 1% et qui étaient, souvenons-nous, de nos grands-parents. Donc en 81, 28% d'un patrimoine était investi en or et en mine d'or. En 1921, 30%. Donc ce réflexe a été perdu à la faveur effectivement de l'immobilier. La question, c'est demain. Donc à mon avis, il faut se poser la question pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, comment protéger leur capital pour leurs enfants, leurs petits-enfants, pour leur retraite, peut-être en faisant autre chose.
Voilà. Et pourquoi pas les mines dont vous croyez au potentiel sur les marchés.
Fait.
Vous nous avez d'ailleurs expliqué tout à l'heure dans le Bullshitomètre, c'était vers 16h40. Et pour ceux qui l'ont raté, qui ont raté le direct, le replay est disponible sur notre application BFM Business. Effectivement, vous vous êtes montré généreuse en data. À vous, Hervé. À vous. Votre chiffre aujourd'hui, 13,49.
Oui, 13,49, ça ne dit pas grand-chose. En fait, c'est le niveau de la volatilité sur l'indice S&P 500 de la Bourse de New York à la clôture vendredi. C'est aussi le niveau peu ou prou qu'on avait en début d'année. Mais il faut se souvenir que le 19 avril, on était monté à près de 19, justement. Donc, beaucoup plus haut. Donc, on a une vraie baisse de la volatilité au cours de la seconde partie du mois d'avril. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait une vraie hausse de la volatilité au cours de la première partie du mois. Pourquoi cela? Des histoires de politique monétaire. Qu'est-ce que la Fed va faire? Ah ben non, début avril, elle ne va pas baisser ses taux. Ah ben si, elle va quand même le faire plus tard dans le mois. Plus un contexte géopolitique, les relations plus que tendues entre Israël et l'Iran. Tout ça pour dire qu'en fait, il faut bien mêler aujourd'hui nos anticipations économiques avec ce que ça signifie en termes de politique monétaire, avec un environnement géopolitique, politique, pas très très lisible. Et on peut avoir beaucoup de changements de pied en termes de volatilité à ce titre-là. La séquence qu'on a connue, on peut la retrouver n'importe quand demain.
Et c'est pour ça que peut-être que Warren Buffett est en train d'accumuler de plus en plus de liquidités. Berkshire Hathaway a annoncé avoir allégé sa position vis-à-vis d'Apple, avoir réduit cette exposition de 13% sur le titre Apple, augmentant encore Berkshire Hathaway sa montagne de liquidités. Les liquidités de Berkshire, la holding de Warren Buffett, sont-elles que Berkshire pourrait à lui seul en cash racheter l'ensemble du groupe McDonald's ou encore l'ensemble de Disney? On en est là aujourd'hui. C'est un signe de prudence sur l'avenir d'accumuler autant de liquidités, Hervé?
Moi, je pense que oui, c'est-à-dire que les arbres ne montent pas au ciel, et ça vaut aussi pour les indices boursiers. En fait, on est dans un monde qui est incertain, un monde incertain. C'est un monde sur lequel les investisseurs peuvent être pris à revers n'importe quand. Depuis le début de l'année, tous les chocs contraires en termes d'anticipation de politique monétaire ont été bien encaissés. Est-ce que ça continuera?
Oui.
On n'en sait rien.
On rappelle que nous sommes la Saint-Prudence aujourd'hui. Bonne fête à tous les prudences qui nous écoutent. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. La Data Room, Hervé Gouletker, Senior Economic Advisor pour Accuracy. Merci beaucoup Céline Picmal-Prade, également la présidente de Picmal Houghton Investments. Bonne soirée. Et dans un instant, la clôture, on va appeler Odo de Kersulek à la Tour Euronext. A tout de suite.
BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Aude Kersulek avec nous pour cette clôture à la radio, à la télé et aussi notre fil X BFM Bourse. On est en direct ensemble jusqu'à 18h. Bonsoir Aude, rebonsoir. Comment le CAC entame-t-il cette semaine à la clôture?
Bonsoir.
Eh bien, dans le vert, avec cette première clôture de la semaine positive, hein, plus 0,5% pour le CAC 40, mais qui s'arrête tout de même à l'entrée des 8000 points, 7996 points. Alors, c'est vrai qu'on est monté aujourd'hui dans le sillage de ce qui se passait vendredi à Wall Street, sur le rapport américain sur l'emploi qui nous a redonné un petit peu d'optimisme, mais c'est quand même vraiment une toute petite journée parce qu'on était fermé du côté de Londres. Le volume d'affaires, comme un lundi, est vraiment très très faible. On est même en dessous des 2 milliards d'euros échangés ce soir sur le CAC 40. Donc on monte, mais on ne décolle pas franchement, comme d'ailleurs du côté de Wall Street. Hein, on reste sur des hausses de 0,5-0,7% pour les indices américains. Alors qu'est-ce qui a marché au sein de notre CAC 40? Téléperformance, c'est la plus forte hausse du jour qui continue sur ces chiffres d'affaires trimestriels de la semaine dernière. Téléperformance qui confirmait ses prévisions de l'année, plus 5%, 99,58 € devant AXA ou encore Accor. En revanche, qu'est-ce qui freinait le CAC? Eh bien, la Société Générale, encore, on perd 1% après moins 5% vendredi. On continue de perdre du terrain, 24,21 €. Stellantis également, après une mauvaise semaine passée, hein, moins 12% sur les 5 derniers jours, moins 0,5% aujourd'hui à 20,24 €. Et puis le luxe aussi, qui était du mauvais côté du tableau, ou encore Sanofi. Voilà les freins du jour. Et puis sur le SBF 120, la plus forte hausse, on en parlait il y a quelques minutes, c'est Morel & Prom, suite à une autorisation qui a été donnée au Venezuela pour un champ pétrolier. Et puis la plus forte baisse, c'est Atos, avec les nouvelles du matin, les 4 propositions faites, 3 retenues, mais toujours l'incertitude pour les actionnaires d'Atos. L'action vaut 2,08 € ce soir. Voilà donc le CAC 40 qui commence bien la semaine, plus 0,5%.
Quel serpent de mer, Atos. Gilles Santacreut avec nous, puis les bureaux de Boursicoté, boursicoté.com. Gilles, bon, quelle leçon tirer de cette clôture dans de faibles volumes? On rappelle que la Bourse de Londres était fermée aujourd'hui, plus 0,49. Qu'est-ce qu'on se dit pour la suite sur le potentiel notamment du CAC 40?
Bah là, en fait, la séance ne nous a pas dit grand-chose. Il y a un élément qu'a souligné Aude et sur lequel je vais revenir, c'est le luxe. Hein, le fait que le luxe soit tout dans le rouge, bah, ça a un petit peu plombé l'indice, que si on compare par exemple au DAX, qui a été un peu plus dynamique. Le manque de volume plaide aussi pour un mouvement qui n'a pas beaucoup de profondeur. Donc, on a tout de même des signaux encourageants. On est venu chercher la zone minimum, hein, cette fameuse zone des 8024 points. Il faudra observer demain s'il y a un relais ou pas. Il faudrait au moins revenir sur la zone des 8092 points pour avoir un vrai mouvement qui pourrait justement changer un petit peu la donne actuelle. On reste actuellement toujours sur une petite inquiétude, et d'un point de vue technique, ça peut redevenir baissier très rapidement.
Merci beaucoup Gilles Santacreut depuis ses bureaux de boursicoté.com, et un petit peu de prudence donc après cette clôture. Effectivement, on va tout de suite continuer de débriefer cette séance et vous apporter des idées pour apporter un peu plus de performance encore à vos portefeuilles. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Grâce à Cécile Aboulian pour Inextenso, elle vient de nous rejoindre. Bonsoir Cécile.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue, merci d'avoir répondu ce soir encore à l'appel de BFM Business. Juste pour signaler, pour ceux qui aiment le foot et qui demain soir suivront le match PSG-Borussia Dortmund, eh bien le titre Borussia Dortmund, c'est coté, hein, le club de Borussia Dortmund est coté à la Bourse de Francfort. Mais le titre ce soir gagne encore 2,3%. Les investisseurs semble y croire. Depuis la victoire au match aller la semaine dernière contre le PSG du Borussia Dortmund, le titre a progressé et ça continue encore aujourd'hui. C'est triste, hein, ils vont perdre de l'argent avec la défaite du Borussia demain soir. Voilà. On espère. On n'espère pas pour les actionnaires du Borussia Dortmund, mais quand même pour les supporters du PSG. Bon, à suivre en tout cas. En tout cas, en attendant ce match retour demain soir, donc le Borussia Dortmund a encore progressé en clôture ce soir. Les valeurs qui se distinguent à la Bourse de Paris, les mal-aimés. Les mal-aimés poursuivent leur rebond, Cécile. Ce soir, plus forte hausse, Téléperformance, le titre gagne 5%. Salué hein, depuis sa publication la semaine dernière, Téléperformance. Un autre mal-aimé qui progresse depuis sa publication, Worldline. Alors du coup, on se prend d'espoir pour un autre mal-aimé, c'est Alstom. Alstom, un des autres mal-aimés du marché. C'est au tour d'Alstom de publier ses résultats cette semaine, ce sera mercredi. Est-ce qu'on peut, compte tenu des réactions de marché aux performances de Téléperformance ou encore de Worldline, se dire que cet autre mal-aimé qu'Alstom pourrait aussi, sur sa publication, progresser après-demain?
Alors, je dirais pas qu'il y a forcément un parallèle à faire entre ces trois sociétés-là. Néanmoins, quand on regarde Alstom, effectivement, c'est une société qui se paye plus très cher. S'il y a une bonne surprise, pourquoi pas un rebond. Mais récemment, les analystes ont revu à la baisse leurs attentes en termes de BPA. Maintenant, on attend des bénéfices par action qui sont en deçà de ceux de l'année précédente. Donc, on sait aussi que même si une partie des mauvaises surprises est intégrée par les analystes et par le marché, c'est vrai que quand on reçoit des résultats et quand on les analyse et qu'ils sont à la baisse, le marché souvent réagit pas bien. Mais ce qu'il faut voir, c'est effectivement les perspectives qui vont être données, notamment plus globalement, quelle va être la politique sur les cessions d'actifs, quelle va être la politique sur le financement, sur une éventuelle augmentation de capital si on a des détails, et c'est ça qu'il faudra plutôt regarder.
Vous êtes optimiste sur l'avenir d'Alstom en bourse? Ils ont raté un gros contrat, c'est dommage, aux États-Unis pour le train à grande vitesse américain, c'est dommage. Voilà.
À court terme, c'est pas forcément la valeur sur laquelle je me positionnerai.
D'accord. Bon, on verra si Alstom bénéficie d'un effet ressort, un peu comme les autres mal-aimés du marché qui, depuis leur publication, progressent, rebondissent bien. Téléperformance encore ce soir, donc en tête du CAC, et Alstom qui publiera après-demain. Demain, c'est Bouygues qui annoncera ses résultats. Même question, là, on aime bien apporter un coup d'avance à ceux qui nous suivent et nous regardent. Sur la publication de Bouygues, on peut espérer peut-être aller une accélération haussière, ou vous êtes plus prudente?
Alors, sur Bouygues... pareil, moi, je suis un peu prudente aussi. Le consensus des analystes attend un chiffre d'affaires T1 de 12 milliards 2 en légère croissance de moins de 2%, dont 2 milliards 4 sur la construction. Il va y avoir un effet de base assez exigeant dans la mesure où l'an dernier, la société avait intégré Equasense et avait par là même réalisé une croissance de 46%. Donc la guidance sur l'ensemble de l'année, c'est une légère croissance et en termes de chiffre d'affaires et en termes de résultats. Néanmoins, l'effet de base sur le T1 doit être un peu exigeant. Donc si le marché attend plus 0 et 0,2, effectivement, on peut être sur un bas de fourchette.
On vous rappelle, il est 17h46, la clôture ce soir à la Bourse de Paris. Le CAC a entamé la semaine en hausse, petite clôture à la hausse, plus 0,49, effectivement, presque à 8000 points, à 7996. Et Xi Jinping, lui, est à Paris. Le président chinois poursuit sa visite à Paris. Il est ici en France pour 48 heures. Il était tout à l'heure en milieu d'après-midi aux Invalides avec Emmanuel Macron et son épouse. Ce soir, Xi Jinping sera à l'Élysée pour un dîner d'État. Et c'est justement l'objet de cette question qu'on vous pose tous les jours sur notre fil XBFM Bourse. Vous pouvez bien sûr vous y abonner, ou encore notre fil LinkedIn. À vos yeux, et à l'occasion de la visite de Xi Jinping en France, à vos yeux, quel secteur parviendra à refaire de la Chine un levier? Est-ce que ce sera en bourse, le secteur des spiritueux? Est-ce que ce sera celui du luxe, celui de l'aérien, l'aéronautique ou encore le tourisme? Et vous avez été nombreux à voter. S'il fallait choisir, oui, parmi tous ces secteurs, un seul secteur, Cécile, ce serait lequel?
J'aurais choisi le luxe également, j'aurais choisi le tourisme également. Ah, oui. Le luxe pour l'exposition en termes d'activité à la Chine. On a vu les chiffres de L'Oréal, on a vu la reprise de LVMH sur la fin de 2023. Donc c'est un secteur qui peut bénéficier de la reprise de la consommation en Chine. Et si on regarde plus particulièrement en termes de pas de secteur, mais de valeur. Seb est l'une de celles qui est le plus exposée à la Chine, donc ça pourrait être intéressant également de s'exposer à cette valeur-là.
Il y a un petit signe de réaccélération de la consommation en Chine. 41% de nos auditeurs et téléspectateurs ont, comme vous, voté pour le luxe, secteur qui pourrait le plus parvenir à refaire de la Chine un levier. Devant les spiritueux, vous avez voté à 22% pour les spiritueux. Il y a un vrai enjeu sur Pernod Ricard et Rémy Cointreau aussi, qui font une bonne partie de leur activité là-bas en Chine. Le problème, c'est qu'en ce moment, il y a une enquête anti-dumping vis-à-vis de ces acteurs en Chine, ce qui du coup plombe un peu l'ambiance pour Rémy Cointreau et Pernod Ricard. Voilà. Alors on imagine que cette enquête anti-dumping, elle a été aussi au cœur de ces nombreuses discussions aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Xi Jinping.
Effectivement, et puis l'agroalimentaire, c'est 11% des exportations françaises, dont les spiritueux. La France, c'est le premier en termes de vin et de spiritueux exportateur auprès de la Chine.
Les Chinois boivent de plus en plus de vin. Effectivement. Je crois qu'ils adorent, je sais plus s'ils adorent les Bourgognes ou les Bordeaux. C'est l'un des deux. Je ne sais plus exactement lequel. Mais c'est l'un des deux, l'un et pas l'autre, en l'occurrence, qui, pour l'autre, du coup, est un petit problème, voilà, en termes de débouchés. Bon, on va regarder ça plus précisément, effectivement. Donc, les spiritueux, vous avez voté à 22%. Et tourisme aéronautique, vous pensez effectivement que, en bourse, ces valeurs du tourisme et de l'aéronautique peuvent espérer, dans les prochains mois, voir la Chine redevenir un levier, effectivement, ou...
Alors, ce dont on se rend compte, c'est que le tourisme chinois en France, si on le prend dans ce sens-là, reprend. On n'est pas au niveau du Covid, du pré-Covid, mais les Chinois et les personnes asiatiques qui viennent en France dépensent un petit peu plus. Et les un peu plus de facilité également à se déplacer avec des visas qui sont obtenus plus rapidement. On imagine qu'à fin 2024, c'est ce qui est projeté en tout cas, le tourisme redevienne à peu près à la normale pré-Covid.
Les Chinois fantasment énormément la France. Voilà, ça c'est le fameux soft power français. C'est vrai, il ne faut pas espérer que la France devienne juste une destination touristique. On espère voir un appareil industriel se reconstruire ici en France, mais quand même, ça compte malgré tout. Et donc, vous avez été 19% à miser sur le tourisme. Voilà, le tourisme qui pourrait voir la Chine redevenir un levier désormais plus puissant. Bon, la visite de Xi Jinping se poursuit donc ce soir, dîner d'État à l'Élysée. Demain, il sera, alors ça, incroyable, dans les Hautes-Pyrénées, au sud de Tarbes, Bigorre en l'occurrence. Il viendra visiter une petite bergerie chez Eric, ça s'appelle comme ça, dans la station, la petite station familiale de la Mongie. Voilà, le président chinois dans cette station, c'est quand même incroyable. Voilà, les facéties de l'histoire. Le CAC ce soir termine en hausse, et alors il y a une valeur qui cartonne littéralement. Elle revient de loin, c'est Carmat. 10% de hausse en clôture. Qu'est-ce qui se passe sur Carmat, Cécile ?
Carmat a publié une nouvelle après des résultats qui avaient été mal accueillis la semaine dernière. Nouvelle au sujet d'un essai clinique auquel elle procède sur 52 patients français. En fait, Carmat, donc, c'est le cœur artificiel qui a eu un marquage chez eux en 2020. Et l'essai clinique, là, consiste à savoir quel est le taux de survie des patients après 6 mois sans problème vasculaire. Et il y a deux autres enjeux, c'est de savoir si ce cœur, à partir de cet essai-là, pourrait être remboursé en France et si ce cœur pourrait également être produit, exporté aux États-Unis. Sachant que sur donc cet essai, Carmat a publié le fait qu'ils en étaient à 20 patients implantés sur 52. Donc l'essai en soi se passe comme ils l'avaient prévu. Et le taux de survie des personnes à 6 mois, les 8 premiers patients qui ont été transplantés, le taux de survie est à 73%, à 75%, contre 15, les 15 patients qui avaient été implantés avant le marquage chez eux, dont le taux de survie est de 73%.
Donc. Oui, donc ça augmente avec en plus un profil de patient, dit Carmat, qui s'aggrave. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un taux de réussite qui progresse alors que le profil des patients, lui, s'aggrave. Donc c'est plutôt encourageant. C'est le message de Carmat et c'est l'une des raisons de la hausse. Et par ailleurs, financièrement, un soutien, les actionnaires actuels, les investisseurs présents au capital seraient prêts à remettre au pot éventuellement, à réinvestir dans Carmat. C'est aussi dans le communiqué que salue le marché ce soir.
Voilà, et ils ont réaffirmé également leur guidance de chiffre d'affaires de 14 millions d'euros, me semble-t-il.
Ce titre Carmat gagne quasiment 9%. On y consacre un article sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Vous pouvez bien sûr cet article le consulter. Christian Fontaine nous accompagne chaque lundi soir depuis le magazine Le Revenu. Bonsoir Christian. Ravi de vous retrouver, comme chaque lundi. Cette question d'une auditrice, elle est aussi lectrice d'ailleurs du magazine Le Revenu. Elle s'appelle Anne. J'envisage, nous dit Anne, de procéder à une donation de titres à mes deux enfants. La donation de titres cotés en bourse purge-t-elle les plus-values ? Telle est sa question.
Alors, oui, Guillaume, la donation purge la plus-value. Donc, si vous donnez des titres en plus-value à vos enfants, vous échappez à l'impôt sur la plus-value et vos enfants aussi s'ils cèdent les titres reçus en donation dans la foulée. C'est une technique de défiscalisation dite de donation-cession est tout à fait légale. Et donc, tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, ben, tous peuvent en profiter. Il suffit, entre guillemets, de détenir des actions ou des obligations ou des fonds en plus-value sur un compte-titres ordinaire, j'insiste, parce qu'on ne peut pas donner des titres détenus dans un PEA ou un contrat d'assurance vie.
Comment procéder en pratique, en l'occurrence ?
Alors, c'est très simple. En fait, il suffit de transférer les titres de votre compte-titres à celui de vos enfants et dans la foulée, donc le passage devant le notaire n'est pas obligatoire, dans la foulée, vos enfants doivent déclarer son don manuel aux impôts via leur site, via le site impôts.gouv.fr. Si le montant total des titres transférés ne dépasse pas 100 000 euros, il n'y aura pas de droit de donation à payer. Et au-delà, s'il y a des droits à payer, de toute façon, ils seront la plupart du temps largement inférieurs au montant de l'impôt sur la plus-value, sachant bien sûr que les parents donc, qui donnent les titres peuvent payer eux-mêmes les droits de donation. Alors pour terminer, attention tout de même, comme toute technique de défiscalisation, elle est regardée comme le lait sur le feu par l'administration fiscale. Donc pour éviter tout abus de droit, il y a deux conditions bien à remplir. D'abord au niveau de la chronologie de l'opération, la donation doit précéder la cession. Et ensuite la donation doit se traduire pour vous par un dépouillement immédiat et définitif. Il ne s'agit pas de récupérer par derrière les titres, voire l'argent que vous avez transmis à vos enfants.
Merci beaucoup. Christian Fontaine, directeur de la rédaction adjoint du magazine Le Revenu. Merci Christian d'avoir répondu à cette auditrice. Anne, qui a sans doute une grande âme aussi d'ailleurs. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur notre adresse mail bfmbourse@bfmbusiness.fr. Juste dans l'univers des publications, puisqu'on arrive, on avance bien dans cette saison de publication en Europe, Cécile, il y en a une qui vous a particulièrement enthousiasmé là depuis quelques semaines en France, en Europe.
Oui, en France absolument, celle d'Arcure qui a publié ses résultats annuels 2023 avec un chiffre d'affaires en hausse de 40%.
D'Arcure.
Oui. Alors Arcure,
c'est Arcure,
un spécialiste des caméras avec intelligence artificielle sur les entrepôts, les chantiers de BTP pour éviter les risques de collision. Et donc la croissance est saine parce que c'est principalement du volume. Elle est sur un business model qui est vertueux avec une rentabilité qui est retrouvée. Donc elle a été particulièrement applaudie par les marchés. On en avait parlé en janvier et elle a fait 60% après la publication. C'était une belle.
Arcure, et il y en a une qui vous a déprimé en 10 secondes comme ça, qui vous a beaucoup déçu?
Sur le secteur automobile, peut-être Delphingen, même si elle a résisté, effectivement, le chiffre d'affaires a déçu. Elle a revu ses marges à la baisse pour l'exercice.
Cécilia Boullion, in extenso et votre franc-parler. Merci beaucoup, Cécile, d'être passée nous voir. Voilà, c'est quelques idées pour la suite. Dans un instant, vous retrouverez Good Evening Business, Guillaume Paul et toute son équipe. Nous, on se donne rendez-vous demain, 15h30, pour un nouvel épisode de BFM Bourse. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.